psilocybine et ou de la MDMA, mais uniquement dans le cadre d'essais cliniques ou avec des autorisations spéciales. C'est sur le site de Radio-Canada que vous pourrez trouver donc l'ensemble de cet article pour avoir encore plus de détails sur cette question. Vous aurez le lien comme l'ensemble des liens qui ont été énoncés ce soir, utilisés ce soir pour vous faire ce tour de pré-rentrée de l'actualité des drogues en général et du cannabis en particulier sur le blog de notre émission sur internet lafumedanslepost.blogspot.com. Vous pourrez lire ceux qui sont accessibles gratuitement d'avoue demain de ni Dieu ni maître vous met ça en œuvre sur le blog qu'il administre avec merveille. Bref, bah voilà, on a réussi à faire le tour à peu près, hein, c'était chargé, on a moins détaillé que d'habitude, mais on a pas mal de bonnes nouvelles à se mettre sous la dent, notamment en provenance de l'international, mais pas que, hein. Allez, pour boucler la boucle, je voudrais revenir quand même sur Nîmes, et le après Pierre Palmade, on a maintenant Nîmes. Qui fait dégueuler les médias français de moralisme, de tournage en rond sécuritaire et tout ça. Enfin, ça, c'est plus les politiciens qui font ça. Bref, faut quand même dire qu'on entend de plus en plus de gens, y compris cette semaine autour de la question de Nîmes, d'intervenants, de soi-disant experts, de ci, de ça, à la radio, à la télé publique ou privée, nous dire que quand même, la légalisation, là où ça se passe, ça engendre pas d'os de la criminalité. Hein, y a plus que la fumée dans le poste pour vous dire ce genre de choses. Moi, je l'ai entendu à la radio publique cette semaine. Davout, tu m'as signalé que la question de la légalisation luxembourgeoise avait été détaillée assez largement dans le paysage audiovisuel français cet été, etc.
L'allemande surtout.
L'allemande, oui, pardon, c'est ce que je voulais dire. Effectivement, bref, il n'y a plus que les politiques pour et ceux qui veulent peut-être celles et ceux qui votent pour eux pour continuer à se mettre des œillères, hein. Dégageons tous ces gens-là, administrons, gérons tout ça nous-mêmes, on sera bien plus rapidement mieux servi, hein, puisque en fait tous ces arguments mis en avant par ces gens de la société civile un petit peu plus sérieuse que les affreux activistes du cirque ou de Radio Libertaire, c'est ce qu'on vous raconte depuis plus de 20 ans, hein, dans nos œuvres militantes, avec les mêmes arguments, les mêmes constats, les mêmes hypothèses, qui se retrouvent vérifiés en général par dans les régions du globe où ce type de politique de légalisation et d'encadrement de la production, de la distribution et de l'usage des drogues au sens très large du terme a pu être mis en place de manière effective. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle, dans 2 semaines plutôt, pour une nouvelle saison d'Il y a de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire, où il sera une fois de plus à nouveau question que de ça, de vous montrer que nous avons raison, nous avions et nous avons toujours raison, et surtout de montrer à celles et ceux qui voudraient bien remettre en question cette morale du tabou, de la prohibition, de l'interdit et tout ça en cause, que eux et elles, ils ont tort, qu'il est grand temps que ça change, parce que y a du sang qui coule, il y a des morts à la clé par overdose, par ci, par ça, et que nous, ça peut plus durer, franchement, ça peut plus durer. Allez, on développe ça peut-être un petit peu plus dans 2 semaines pour l'émission de rentrée en direct sur Radio Libertaire de Il y a de la fumée dans le poste pour la saison 2023-2024. Wouah ! Je vais lâcher un gros mot, allez, c'est peut-être un des premiers de l'édition quand même. Putain, si on m'avait dit qu'on la ferait celle-là, d'avoue, il y a tant d'années qu'on est là à parler de ça, puis, la vache.
Oui, mais non, excuse-moi de t'interrompre, Max, mais regarde, prenons appui sur ce qui se passe autour de nous, on peut pas le négliger, et je pense à un moment ou à un autre que ça va maturer dans les esprits, ça va finir par passer.
J'espère, parce que moi, je suis un peu à bout. Ouais.
Non, mais le sens de l'histoire,
il n'est plus aucune patience.
Le sens de l'histoire est au-delà de nos frontières. On voit bien, et à un moment ou à un autre, les gens vont constater quand même ce qui se passe, quoi. Je pense qu'on va pouvoir prendre appui de manière intéressante sur ce qui va se passer. Pas tellement au Luxembourg, mais surtout ce qui peut se passer en Allemagne. On va pouvoir prendre appui dessus. On va avoir un exemple beaucoup plus concret que l'exemple canadien qui parfois ne parle pas forcément aux gens, ou l'exemple californien qui ne parle pas forcément aux gens. Mais là, on va avoir vraiment un vrai point d'appui et on va avancer. Et je pense qu'on tient le bon bout, Max. Je sais que t'es pas d'accord, mais.
Ah, tu sais que moi, l'espoir, c'est pas ma vertu première dans
mais
la vie.
Si on n'avait pas l'espoir, on serait nihiliste, camarade. On est anarchiste, donc on a l'espoir et on avance.
Allez, merci. T'es très, très bonne morale. mal de faim, ça d'avoue. Pour clore cette sélection musicale un peu estivale, un peu essayer de vous proposer une petite tranche d'évasion musicale et radiophonique. Aujourd'hui, il y a de la fumée dans le poste. On va se garder le Massilia Sound System pour dans 2 semaines, si tu veux bien, et on va passer directement au traditionnel morceau punk que je ne manque pas de vous programmer. Pour précéder Détruire l'ennui, l'excellentissime émission punk DIY de Radio Libertaire, ou pas, hein, qu'il soit là ou pas, je vous programme toujours un petit punk. Alors là, le punk des vacances, le punk estival, moi je suis moins DIY et je tape un peu plus dans le classique que Romain notamment et notre regretté papy le faisait, mais quand je me pose cette question là, il y a quand même un débat qui se fait en moi. Alors est-ce qu'on allait plutôt faire des vacances au soleil? Là, les connaisseurs ont reconnu les Sex Pistols ou plutôt le Cambodge. Bon, allez, j'ai choisi le Cambodge une fois de plus. Et donc, Jello Biafra et ses comparses des Dead Kennedys en 1980. Hein, et c'est en pensant toujours à tous ces connards hein, qui choisissent des destinations exotiques et très pauvres pour aller encore un peu plus nous faire enfoncer dans la catastrophe écologique et imposer des critères et des normes occidentales dans des pays de cultures radicalement différentes. Enfin, bref. Toute la pollution, toutes les pollutions que le tourisme, l'industrie du tourisme, dont l'industrie du tourisme est pourvoyeuse et qui, elle aussi, me débecte allègrement. J'en profite pour la placer, celle-là, avant ce petit Holiday in Cambodia, signé Dead Kennedys. Un grand merci d'avoue de m'avoir accompagné. J'avais grand besoin d'aide pour cette reprise. Et rendez-vous, j'imagine, dans la semaine.
Ouais, demain, Nuit Noire, mercredi, le Ferry Club.
Et tout de suite, les Dead Kennedys, Holiday in Cambodia. Il y a de la fumée dans le poste, dimanche 18h30, dans 2 semaines. Bisous à toutes, bisous à tous. Ciao!
It's a holiday. No! Bonsoir tout le monde, bien sûr à Liberté R 89.4, c'est l'émission Détruire l'ennui, comme vous avez dû le supputer, vu le style et le niveau sonore que j'ai tendance, même tendance systématiquement, envie de vous infliger le dimanche soir, dominicalement. Donc, où en étais-je ? Une émission spéciale crust japonais ce soir. Il y a deux semaines, on avait fait spécial crust grec, avec toutes les... C'est une exploration de toutes les caractéristiques, les typologies qui font, qui construisent hein, le crust grec, le style crust grec. Ce coup-là, on bascule complètement de l'autre côté du monde et le Japon. Alors, autant le crust grec, c'est quelque chose d'assez confidentiel, d'un petit peu obscur, un truc qui se mérite, hein, entre guillemets. Le crust japonais, c'est beaucoup plus connu et beaucoup plus apprécié. Mais à l'instar donc de l'école grecque, l'école japonaise a un style très distinctif, ce qui fait que quand on parle de crust japonais, c'est pas seulement du crust qui vient du Japon, c'est bien entendu du crust avec un style japonais. Ce qui fait que maintenant on peut très bien avoir des groupes américains. Bon, les Américains sont très friands de musique japonaise en règle générale, mais des groupes américains qui jouent du crust japonais. Et ça, c'est voilà, il peut y avoir des groupes indonésiens qui vont jouer du crust japonais, etc. Voilà. Donc, c'est pas seulement une question de géographie, mais une question de style. Et aujourd'hui, on va voir un petit peu comment s'est développé et qu'est-ce qui fait que le crust japonais est du crust japonais. Donc, sur les quatre premiers morceaux, j'ai voulu un petit peu explorer les groupes, disons, fondateurs du style. Ah, il y a plusieurs styles de crust au Japon en plus, comme on va le voir. Là, on est vraiment sur les pionniers. Donc, on a commencé par un groupe de SDS, donc ça veut dire Society Death Slaughter, ce qui ne veut pas dire grand-chose, puisque Society, c'est effectivement un mot qui n'existe pas. Alors, les Japonais, alors les punks japonais ne parlent pas toujours très bien anglais, mais c'est très rare qu'ils chantent en japonais. Voilà, ce qui fait qu'il y a parfois des traductions des noms de morceaux, ou même des noms de groupes ou d'albums, qui sont... involontairement, poétiques ou qui sont des envolées linguistiques qui n'ont pas forcément toujours beaucoup de sens, mais ce qui fait souvent le charme des groupes japonais, c'est qu'il y a une espèce de nouvelle langue hein, qui s'est quasiment créée au niveau du punk. Voilà, SDS, c'est le groupe pionnier du crust au Japon. Hein. Ils sont de Gifu. Gifu, c'est un petit bled, hein, c'est pas du tout une grande ville. C'est un peu la campagne. Ils sont formés en 84. Donc, il y a eu plusieurs périodes, hein, que les membres ont changé, mais le chanteur, voilà, Takacho, il a toujours été là. C'est un petit peu lui l'esprit du groupe. Là, on a écouté un morceau qui s'appelait The End of the World, qui est tiré d'une compilation, qui s'appelait I Will Take No Order from Anyone, qui est sorti en 91 sur Discipline. Donc, SDS, ils sont effectivement formés en 84. Mais au début, c'était plus un groupe metal, un peu crossover. Sachant que dès l'origine, hein, SDS, c'était, ils voulaient faire du punk à l'anglaise. Donc, crust à l'anglaise. L'influence, surtout dans les premières années, entre 89 jusqu'à 80, les années 90, c'est anti-secte. Hein, voilà, clairement, que ce soit dans l'esthétique ou dans la musique, dans les références, c'est vraiment anti-secte hein, que l'influence principale de SDS, sachant qu'une des caractéristiques premières du crust japonais, et SDS en est un très bon exemple, puisqu'ils vont vraiment être l'épitome, hein, le parangon de cette tendance, c'est la référentialité. C'est-à-dire que le crust japonais fait ouvertement référence, même lourdement référence, hein, de façon totalement évidente, à d'autres groupes. Dans le cas de SDS, les références à anti-sexe sont complètement ouvertes, hein, que ce soit dans la police d'écriture, dans le nom des chansons, dans la musique, bien évidemment, hein, puisqu'ils reprennent quasiment à l'identique certains riffs. Donc dans le punk japonais en général, et dans le crust très clairement, on retrouve ces espèces d'hommages à des groupes, voilà, c'est anglais en l'occurrence, quasiment des copier-coller en fait. Et c'est quelque chose qu'on ne trouve pas vraiment dans d'autres groupes, enfin d'autres pays. Donc ça, c'est vraiment typique du crust japonais, du punk japonais en général. C'est la référence ouverte, hein, quasiment copier-coller, mais fait avec une passion, une intensité qui s'approche de la réadaptation, de la réappropriation. Voilà, donc dans le cas de SDS, c'est vraiment l'exemple quasiment parfait, hein, surtout dans les premières années. Donc là, on a la période clairement anti-secte du groupe, hein, le morceau The End of the World, on est complètement sur la période Out from the Void d'anti-secte, hein, punk metal, proto-crust quasiment. Le groupe SDS va évoluer un petit peu au niveau du son, on pourra faire une émission complète sur SDS. C'est vraiment le groupe le plus emblématique du crust japonais pour moi. Sûrement mon favori aussi. Donc, belle discographie, toujours très très solide. Le premier EP Never Arise sort en 90. Il y a un split LP avec Misery, groupe de crust de Minneapolis, qui est absolument extraordinaire, qui sort en 92. Donc ça, c'est la première période un peu anti-secte, ce qui est la période légèrement avant. Bon, c'est un peu préparatoire. Ce qu'ils font les années 80, c'est, comme je l'ai dit, c'est plus métallique. C'est moins intéressant, même si on détecte déjà quand même ce que va devenir le groupe un petit peu après. En 96, changement de membre, le son change un petit peu aussi. Scum System Kill, un EP que extraordinaire, vraiment classique. Amoeber en 98, le split avec Hong Kong Knife en 99, et leur dernier disque, Digital Evil in Your Life en 2000, un 10 pouces, voilà, qui est certaines personnes, c'est leur préféré. Où, là, c'est un peu un mélange de ce qu'ils ont fait, une espèce de crust complètement furieux avec des guitares dans tous les sens. Et on retrouve quand même un petit peu toujours ces références à Anti-Secte tout le long de leur carrière, même si sur la fin ils se détachent un petit peu du truc. Enfin, c'est un groupe super intense, vraiment exceptionnel. Bon, là j'ai fait un tour sur ce que les disques à proprement parler, ils sont apparus sur pas mal de compilations également. Crust and Engaged, Meaningful Consolidation, le premier, le Flexi, voilà, que j'ai plus le nom en tête, mais qui est aussi peut-être le premier disque de Crust sorti au Japon. Ils partagent une compile avec Atrocity Exhibition et Nausea. Je retrouverai le nom, sorti en 89. Voilà, donc le premier morceau c'était SDS, le groupe de crust le plus emblématique. Derrière, on a eu CFDL, Crazy Fucked Up Daily Life, une référence à Disorder, puisque c'est une ligne, c'est un texte de Disorder qu'ils ont repris comme nom de groupe, sur le morceau Daily Life. Disorder, c'est Crazy Fucked Up Daily Life. Et donc CFDL, on les connaît quand même surtout sur le nom CFDL. Groupe, alors eux. Crusty, le morceau qu'on a écouté l'est clairement, c'est Rights to Kill. C'est sorti sur le EP de 90 qui s'appelait Atrocity Exhibition. En 2002, il y a une réédition de ça où il y a plus de morceaux que je recommande, qui est vraiment super bien. À cette époque-là, le groupe, il est vraiment en mode Extreme Noise Terror. C'est entre Extreme Noise Terror et les groupes comme Kuro, je dirais, groupe japonais, un peu noise punk comme ça, bon, influencé déjà par les Anglais. Enfin, on a vraiment cette espèce de énergie hardcore japonaise avec un double chant, l'Extreme Noise Terror, c'est hyper hyper bien. Moi c'est un disque que j'aime beaucoup. Après voilà, ils ont fait des choses un peu différentes, un peu plus hardcore trash, très rapide, un peu fun aussi. Enfin, c'est un groupe très intéressant, avec des textes assez politiques, un côté DIY hyper assumé aussi. C'est un groupe, c'est vraiment un classique. Ils n'ont pas fait que des super disques. C'est un petit peu inégal, mais c'est un groupe éminemment sympathique, CFDL. Ils ont quand même des très bonnes choses. Atrocity Exhibition, c'est un vrai classique. Il y a un LP qui s'appelait Thrash Punk 91, sorti sur Overthrow Records, qui est chouette aussi. Il y a un split avec Dischange, avec Regeneration, groupe mexicain. Dischange, ils sont suédois, Sarcasm du Angleterre, No Token, une fonction équatorienne, donc il y a vraiment ce côté DIY international que CFDL, c'est en partie de l'identité de CFDL, c'est vraiment le Network of Friends, la scène hardcore mondiale, les liens qui se créent. C'est vraiment dans cette espèce de démarche-là de scène hardcore punk DIY politique mondiale, CFDL. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez eux. Il y a Trash Punk Thrash, sorti en 2009, c'est Crust War, gros l'appel Crust de Osaka, on en reparlera. Sorti en 2009, mais enregistré en 94. Et voilà, des membres de CFDL, le chanteur, qui écrivait pas mal de chansons, il joue maintenant, il a joué dans Results, et il joue maintenant dans No. Voilà, il a reformé un groupe récemment, et vraiment dans la même ambiance, même genre de thrash punk un peu rapide, avec des textes très politiques. Mais voilà, pour le côté crust, à cette époque-là, fin 80, tout début 90, CFDL, il joue vraiment du crust à l'anglaise, donc ça faisait complètement sens de les mettre dans cette première série. D'ailleurs, on a eu Macrophage, ils sont de Tokyo. Alors, CFDL, ils sont de Nagoya, donc quand même une grande ville. Macrophage, ils sont de Tokyo, c'est le premier groupe de crust tokyoïte de l'histoire, je pense qu'on peut, le dire comme ça. Macrophage sont les pionniers du crust à la Doom. Donc Doom, c'est un fameux groupe de Birmingham, les premiers groupes de crust. Alors eux, pour eux, c'est une version du crust très influencée par les groupes de hardcore suédois type Discard, Bombanfall, Svart Parade, tous ces trucs-là, quoi. Et qui vont un petit peu accentuer, simplifier un côté très primitif, très homme des cavernes. Et voilà, Doom, c'est une influence démentielle, hein, sur la musique punk mondiale. Et les Japonais sont extrêmement friands de Doom. C'est-à-dire qu'il y a quasiment un courant du crust japonais qui est basé sur l'imitation, la grande influence ou la référentialité. Hein, parce que comme je l'ai dit, il y a beaucoup de référentialité dans le crust japonais. Hein, donc on imite Doom de façon complètement ouverte. Et Macrophage, c'est le premier groupe japonais qui va faire ça. Hein. Il y en aura beaucoup d'autres par la suite. Il y en a encore beaucoup. Donc là, on est sur une influence vraiment Doom complètement ouverte. Hein. Le morceau, c'est Reality Crisis. Reality Crisis, c'est aussi un groupe, le nom d'un groupe, hein, qui va s'influencer de Macrophage. Hein. C'est tiré d'un split flexi sorti en 89 avec Euthanasia, groupe finlandais très anecdotique, assez oubliable. Mais voilà, ce petit flexi de 89, c'est là aussi un des premiers, tout premiers gros disques de crust japonais, hein, puisque voilà, SDS, ils sortent leur premier EP en 90, CFDL en 90 également. Macrophage, ils sont en 89, il y avait des cassettes avant, il y a une Stop Your Nonsense, sorti en 88, il y a des cassettes live également. Il n'y a jamais eu de réédition officielle de discographie de Macrophage, c'est très très dommage parce que c'est super bien. Voilà, et musicalement, bah, on navigue dans... sent pas mal à Doom, à Hiatus aussi, hein. Bon, ça je sais pas du tout si c'est volontaire, mais bon, c'est un petit peu avant Macrophage, hein, c'est 89, mais voilà, ça pose quand même pas mal les bases de ce que va devenir le crust influencé par Doom, notamment en Europe. Bon, ça c'est assez involontaire, parce que Macrophage c'est pas un groupe très connu en Europe, en tout cas qu'il n'était pas à l'époque, c'est quand même plutôt pointu, mais voilà, ça faisait complètement sens de les inclure dans cette première série des pionniers du crust. Dernier groupe, c'était Banish Arms, un groupe de Sendai. Alors là, on est encore sur du plus obscur, parce que Banish Arms, ils n'ont jamais vraiment sorti de disque à eux, ils sont toujours apparus sur des compilations. Hein. Le morceau qu'on a écouté, c'est Foolish An Idea Fixed, sorti sur une compilation de 91 qui s'appelait Who's Chained Up to the Dogs of Outrage. Alors je ne saurais pas vraiment... vous traduire ça correctement. C'est un groupe qui a existé fin des années 80, j'ai pas vraiment de date de formation, mais je dirais 87 ou 88, puisque leurs premiers morceaux sont de 89, sur une compilation qui s'appelle Hardcore Showcase. Il y a aussi quelques morceaux d'eux sur une compilation double P qui s'appelait Give Us the Time to Play, sorti en 90. Alors musicalement, on est vraiment sur du crust à l'anglaise, hein, donc SDS, on était plutôt sur du Antisect, CFDL, Extreme Noise Terror, Electro Hippies, puis voilà, des groupes comme Kuro, Macrophage, on est sur du Doom à fond, Banish Arms, c'est un peu une synthèse de tout ça, hein. Crust Early Stenchcore à l'anglaise, pour rappeler un peu Mortal Terror ou ce genre de groupe, assez métallique. Voilà, super bien, hein, enfin, et c'est un groupe assez, là on est encore plus pointu que Macrophage, puisqu'ils ont sorti que des morceaux sur des compilations. Il y a une réédition, une espèce de simili discographie qui est sortie, qui regroupe les morceaux de compile et quelques lives. Voilà, il y a apparemment d'enregistrement studio inédit, mais voilà, ça a le mérite d'exister en CD, c'est un tout petit tirage, mais voilà, Banish Arms, hein, donc avec des morceaux assez typiques, hein, au niveau des thématiques, anti-guerre, pour le droit des animaux, tout ce qui faisait un petit peu les caractéristiques du crust anglais notamment, et par la suite, voilà, un petit peu mondial, mais voilà, et dans l'esthétique, hein, tous ces groupes qu'on passe, hein, font des références très ouvertes à la scène anarcho-punk et early crust, hein, les premiers pas du crust originel, hein, pour en dire, que ce soit au niveau visuel ou musical, voilà, donc Banish Arms, c'est vraiment l'époque, l'école un peu Deviated Instinct, donc ouais, Mortal Terror, je l'ai dit, Prophecy of Doom, donc tous ces premiers groupes anglais, voilà, qui mélange vraiment, mais il y a quand même ce côté japonais dans le phrasé, hein, parce que les punks japonais, comme la langue est tellement différente, quand ils chantent, il y a quand même un débit assez typique et une intensité, parce qu'on reconnaît toujours un groupe japonais, quasiment. Que ce soit dans l'accentuation, la prosodie, la diction, etc. Ça se reconnaît tout de suite. Et voilà, stylistiquement, évidemment, ils ont construit un style un petit peu à eux, sous l'influence, voilà, l'impulsion de ces groupes-là. Voilà, donc ça, c'est c'est pas des groupes de même zone géographique, hein, ils viennent de quatre endroits différents. La prochaine série, par contre, ça va être sur l'école d'Osaka, qui est un petit peu après. Et par contre, là, on a vraiment un style de crust hardcore d'Osaka. Et on va commencer bien évidemment par le groupe emblématique de cette ville en termes de crust, c'est-à-dire Gloom. C'est parti.
We'll be right back.
Vous êtes toujours sur Radio Liberté à 15.4, c'est l'émission Détruire l'ennui. Aujourd'hui, une émission spéciale crust japonais. Donc, j'en passe pas mal, hein, j'en diffuse pas mal des groupes de hardcore, d'beat, crust japonais. Parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'ai appris à beaucoup aimer, notamment pour tout le jeu de référence que j'ai déjà évoqué un petit peu avant, le circuit de symboles et de sens qu'on trouve dans ces groupes. Donc la première série de 4 morceaux, c'était un petit peu sur des groupes pionniers. Ce ne sont pas les seuls, hein, il y en aura un peu après aussi, mais voilà, c'est des 4 groupes qui me semblaient pertinents de passer tout de suite. Là, on a enchaîné 4 groupes de Osaka. Alors Osaka, c'est une scène assez particulière pour ce qui est du crust. Disons que c'est un peu la Mecque au Japon. Hein. C'est les crusty d'Osaka, c'est quelque chose. Ils ont une réputation qu'ils défendent et qu'ils entretiennent. Alors le crust d'Osaka est souvent très très bruyant. Il y a beaucoup de distorsions, il y a beaucoup de folie, il y a des hurlements gratuits. Voilà, c'est un peu toujours foufou. Et le premier groupe. Le groupe à avoir lancé un petit peu ça, c'est donc Gloom. Gloom, c'est un groupe qui s'est formé au tout début des années 90, hein, puisque les premiers enregistrements sont de 91. Il y a une démo qui s'appelle The End. Voilà, et peu à peu, hein, puisqu'ils ont existé quand même un petit bout de temps, une dizaine d'années, ils vont construire un petit peu leur son. Donc au début, c'était cru. Alors, ça a toujours été un groupe qui valorise le côté cru, le côté primitif, hein, de leur punk. Donc c'est quelque chose pour laquelle ils sont appréciés et reconnus, hein. Le morceau qu'on a écouté, c'était Wargasm. C'est sorti sur leur premier EP qui s'appelait Speed Noise Hardcore Rags, sorti donc en 94. Dans le titre, alors ça résume un petit peu ce qu'ils font, hein. Speed Noise Hardcore, ça joue vite, c'est bruyant, et le côté rags, ça veut dire des vêtements dégueulasses troués. Donc clairement, c'est une grosse référence au crust, hein. Donc voilà, on est un petit peu sur un mélange de hardcore rapide, de noise punk et de crust. C'est un titre qui finalement résume pas mal, et c'est aussi une référence à un groupe qui s'appelle Acid, hein, qui avait un morceau qui s'appelait Hardcore Rags. On va passer à un morceau d'Acide par la suite, qui est un des groupes fondateurs mais involontaires. Bon, on l'évoquera un petit peu. Donc le morceau sur le premier EP de 94, où là le groupe a vraiment commencé à développer son vrai son. Donc c'est pas la période la plus distordue du groupe, hein. Ce sera Recommendation of Perdition, sorti en 97, et Noise from Oblish, une cassette ultra mythique, enfin les deux enregistrements sont mythiques, sorti la même année, où là vraiment ils vont balancer la disto à fond. À la Confuse, hein, parce que voilà, le Gloom, c'est un petit peu une synthèse de noise punk à la japonaise, hein, l'école des Confuse, Guy, Kuro, tous ces trucs-là, avec quand même des groupes suédois. Hein, y a, surtout là sur le morceau qu'on a écouté, il hein, y a quand même une vraie influence du hardcore suédois des années 80, et puis voilà, l'école un petit peu anglaise évidemment, hein, les crusts originels, jouaient avec une énergie, une intensité qui fait que c'est vraiment un groupe mythique, hein, c'est ultra classique, Gloom, très très apprécié en Asie, hein, notamment, évidemment. Au niveau des visuels, bon, ça fait référence pas mal à l'école de Bristol aussi, Chaos UK, Disorder, avec des dessins de punk un petit peu faussement naïfs, hein, dessinés à la va-vite, assez crade, voilà, l'esthétique, le primitivisme visuel punk, en quelque sorte, enfin, hardcore punk en tout cas. De toute façon, cette école du noise punk, que ce soit les groupes de Bristol, Chaos UK, Disorder et leurs héritiers donc de Kyushu, hein, Confuse en tête, bon, ils ont toujours entretenu ce côté un peu punk rigolo avec des dessins un peu déglingués, un peu zinzin, un peu fou. Gloom, hein, ils utilisent ça, mais il y a un côté plus sérieux, hein, parce qu'il y a aussi le lettrage à la crasse, le double rond de crasse notamment, c'est les premiers à faire ça. Hein, donc c'est un rond de crasse entouré d'un autre rond de crasse. Et voilà, avec le côté punk à clou, il y a un univers visuel qui est assez frappant chez ce groupe, et ça joue beaucoup, hein, sur le côté culte, hein, clairement. C'est que bon, au Japon, l'apparence joue beaucoup, on va quand même pas se mentir, notamment chez les punks, les punks japonais sont très très lookés, hein, y en a beaucoup, il y a de la surenchère, il y a un côté fou, il y a un côté complètement exagéré, ce qui contraste beaucoup avec le côté un peu grégaire et du salaryman typique japonais. Donc il y a vraiment les deux extrêmes qui cohabitent, et Gloom, ils sont un extrême. Voilà, ce groupe que j'aime beaucoup. Le premier EP, Speed Noise Hardcore Rag, c'est pas forcément mon préféré. Moi, c'est quand même Recommendation of Perdition, qui est beaucoup plus versatile, ils utilisent tous ces roulements de batterie complètement dingos qu'on trouve notamment chez Chaos UK, chez Confused, tout ça. Voilà, il y a un côté un peu plus foldingue. Le Hardcore Rack, c'est peut-être plus brutal. Voilà, donc, mais bon, c'est un très bon disque, un groupe que j'aime beaucoup. Derrière, on a eu Warcry. Alors, l'équipe de Gloom, hein, ils vont, en fait, cette clique de premier Krusty d'Osaka, ils vont derrière jouer dans plein d'autres groupes, hein, donc dans Defector, Defiance, et donc Warcry. Warcry, groupe plutôt anecdotique, donc avec des membres de Gloom et de Defiance. Ils ont enregistré une démo qui s'appelait Keep Drinking Attitude, une référence ouverte à Sore Throat, hein, où c'était Positive Drinking Attitude. Voilà, donc là on est vraiment sur du crust à l'anglaise, Sore Throat, Extreme Noise Terror, premier Disrupt aussi, hyper chaotique, hyper cru. Il y avait trois chanteurs dans Warcry. Hein. Donc là on est sur du de l'hyperbole crust, plus crust humeur volontaire. C'est peut-être pas un groupe très très sérieux, il y a un seul enregistrement, une démo, c'est assez anecdotique en fait. Mais voilà, je voulais quand même le passer pour parce que ça malgré tout ça illustre bien ce que c'est que le crust Osaka, très cru, très primitif, très référencé hein, clairement sur l'esthétique du groupe, les morceaux, on voit très bien ce qu'ils veulent faire et à qui ils veulent ressembler. Donc voilà, c'est quand même assez pertinent de l'inclure, même si effectivement c'est pas voilà, c'est vraiment pour les complétistes. Keep Drinking Attitude, la cassette sortie en 93, il y a une réédition chez Crustwar, c'est le label de Crust Osaka, créé par quelqu'un de Gloom hein, évidemment, il s'agit de Abby de Gloom, et par Jackie qui joue de la guitare dans Framtid, voilà, entre d'autres groupes. Il a également joué sur le dernier EP de Gloom, hein, Mentally Anachronistic en 2000. Et voilà, Crustwar, c'est un label, il sort pas que des groupes d'Osaka, mais c'est quand même une institution crust dans le monde, même si maintenant ça, il sort moins de disques. Hein, voilà. Mais dans les années 90-2000, c'était quand même assez incontournable. Et si on veut avoir une image un petit peu de ce que c'est que le crust japonais, écoutez la discographie de Crustwar, c'est le meilleur moyen pour commencer. Hein. Derrière, on a eu Defiance, groupe encore une fois assez pointu, hein, ils n'ont pas enregistré tant que ça. Sorti une cassette en 93, dont les morceaux finiront, donc trois morceaux, hein, sur la compilation Truth, sorti en 93 également. C'est un morceau de cette compile qu'on a écouté, Out of Ordinary. Derrière, voilà, donc c'est de l'équipe de Gloom, hein, de toute façon. Hein. Clairement, c'est, on est sur cette équipe de Krusty. Defiance, un peu plus à la suédoise. Là, le morceau qu'on a écouté, avec un riff un petit peu rock. Voilà, c'est du hardcore suédois, un petit peu sali, avec de la distorsion, vraiment à la japonaise. Ils vont maximiser un petit peu cette formule. Groupe qui n'a pas assez enregistré à mon goût, mais voilà, ce qu'ils ont fait, c'est quand même hyper bien. Il y a des morceaux d'eux sur la compile Final Noise Attack, sorti en 1994. Alors les Final Noise Attack, c'était des concerts organisés à Osaka. Une série de concerts avec des groupes de crust, de hardcore ultra noisy, de 10 bits. Voilà, s'il y a des clous, des pantalons troués, des coiffures improbables, c'était là que ça se passait. Et dans les années 90, c'était assez mythique, hein, les groupes, les concerts Final Noise Attack. Et c'est vrai que quand on voit certaines programmations qu'ils faisaient, c'était complètement fou. Parce que c'était vraiment la crème de la crème de toute la scène japonaise des années 90, qui était ouf. Hein, en termes de crust, c'était complètement dingo. Qui jouait là-bas. Donc c'est hyper mythique. Et donc il y a ce EP Final Noise Attack qui est sorti. On trouve quatre groupes, qui ne sont pas forcément les meilleurs groupes d'ailleurs, hein, de cette scène d'Osaka, mais il y a plein de groupes, donc c'est bien aussi d'avoir un petit aperçu de second couteau. Bon, c'est une compile mythique, mais c'est pas forcément les meilleurs groupes d'Osaka dessus, hein. Il y a aussi des morceaux d'eux qui apparaissent sur la compilation Meaningful Consolidation en 94, c'est un double EP où on trouvera beaucoup d'autres groupes comme SDS qu'on a écouté en premier, et aussi Abraham Cross, Iconoclast qu'on écoutera par la suite suivant le temps qu'on a. Et finalement, dernier morceau, sur une compilation CD sortie en 98, le groupe n'existait plus à l'époque. Hein. C'est un groupe qui n'a pas existé très longtemps, Defiance, qui s'appelait What is Crust, What is Metalcore, où c'est très varié, un peu toutes les scènes hardcore japonaises des années 90, mais sorti que en 98 en CD. Voilà, je sais pas trop pourquoi. Donc ça c'est Defiance, à ne pas confondre avec les Defiance de Portland, bien évidemment. On a fini par un groupe qui s'appelait Crusade. Alors la scène hardcore punk japonaise, et le Japon en général, c'est un pays assez patriarcal, c'est pas le seul, vous me direz, mais du coup il n'y a pas forcément énormément de filles qui sont impliquées dans la scène. Et Crusade, c'était un trio de filles, donc de crust d'Osaka, qui n'a pas existé hyper longtemps, mais qui a quand même laissé une marque, hein, parce que c'était le premier groupe, donc 100% féminin de crust, un des tout premiers, peut-être même dans le monde, hein, là je marque comme ça. Il y a des groupes, évidemment, il y en avait plein, hein, des groupes avec que des filles, enfin plein. Il y en avait, clairement. Dans ce style hyper brutal des cavernes, entre guillemets, il n'y en avait pas beaucoup. Donc il me semble même que c'est le premier. Il y en a en Suède derrière, il faudrait que je recherche, mais Crusade, à mon avis, c'est le premier. Alors on est sur quelque chose de cross, droit devant, quasiment en binaire, hein, tout pas, tout pas, tout pas. Voilà, sans fioritures, sans mélodie, c'est vraiment tout droit. Ça rappelle effectivement une version un peu primitive d'Extreme Noise Terror, vraiment très, très basique, très, très droit devant. C'est bien, après voilà, on n'en écouterait pas forcément deux heures. Le morceau qu'on a écouté, c'est System Worker, sorti une démo, sorti en 92, qui s'appelait No Trust. Il y a une discographie de Crusade qui vaut vraiment le coup, il y a une petite histoire, il y a des photos, il y a tout un tas de trucs pour documenter un peu ce groupe qui a malheureusement sorti qu'une cassette à l'époque. Voilà, et il y a un enregistrement live qui montre quand même que ça envoyait, voilà, c'était clairement au niveau, et c'était un des, voilà, comme j'ai dit, un des rares groupes où on trouvait quand même des filles dedans qui avaient un peu autre chose à dire que simplement tous les textes anti-guerre ou un peu anti-système, etc., un petit peu générique, voilà. On va passer à Tokyo. Donc Osaka, c'est un peu l'équivalent de c'est le Marseille du Japon. C'est comme ça qu'on les gens la nomment. Alors bon, moi je suis allé à Osaka, ça m'a pas vraiment fait penser à Marseille, mais peu importe. Là, on va passer à Tokyo, qui avait aussi une scène crust qui était assez exceptionnelle dans les années 90. Et bah, c'est parti.
Yeah.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, c'est l'émission Détruire l'ennui. Aujourd'hui, une émission spéciale crust japonais. Donc, à la fois en termes géographiques, bien évidemment, et en termes stylistiques. Voilà, donc, première série. On avait vu les groupes un petit peu fondateurs du style, les vrais classiques, les pionniers, n'est-ce pas ? La deuxième série, c'était sur les crusty d'Osaka et leur style. Et là, on les crusty de Tokyo. De toute façon, l'émission va se concentrer vraiment sur les années 90. Et voilà, quelques groupes un petit peu qui ont commencé auparavant, comme SDS, Macrofarge, etc. Mais on va pas aller sur les années 2000, parce que ça prendrait une autre émission. Donc peut-être que je ferai une autre émission sur le crust japonais des années 2000, c'est complètement possible. Voilà, ce sera pas aujourd'hui. Donc, crusty de Tokyo, Tokyo, énormément de groupes. Bien évidemment, c'était une place forte. Surtout les années 90, plus que les années 80, paradoxalement un petit peu. Il y a un boom énorme du hardcore au Japon dans les années 90. Il n'y a pas que le crust, hein. Il y a tous les styles, le Burning Spirit, c'est ce qu'on appelle le Burning Spirit notamment, les groupes comme Deathside, Bastard, Lip Cream, tous ces groupes-là. Et en parallèle, donc, il y a cette scène crust, plus influencée par l'Angleterre et la Suède. Et on a écouté en premier Battle of Disarm, groupe culte, hein, clairement très actif dans les années 90. On est sur du crust à la Doom, Hiatus, vraiment Eurocrust, enfin j'allais dire générique, je dirais plutôt typique, au niveau du tempo, une espèce de gros débit de salle avec un chant d'homme des cavernes, voilà, Battle of Disarmed. Ils sont vraiment sur cette formule-là. Le morceau qu'on a écouté, c'était Cash and Greed, sorti d'un split LP avec Brainstorm, un groupe punk metal de Belgrade. Ils ont sorti beaucoup de disques, hein, Battle of Disarmed, ils ne sont pas tous extraordinaires. Il y a un split LP Under Threat sorti en 99, il y a deux EP en 94, un live qui est bien d'ailleurs, sorti en 94, ça j'ai dit, In the War en 94 également, et des splits avec Ilkue, donc de Finlande, Soup Chaos du Portugal, Inky Sao du Brésil, Fleas and Lice, donc groupe néerlandais, Los Recios du Pérou, plus des cassettes, d'autres trucs, voilà. Groupe très très actif, ils se sont formés en 89. Et le chanteur Ryuji s'occupait du label DIY Records, qui a sorti beaucoup de disques, notamment la compilation Tokyo Crusties, qui est vraiment mythique, dont on va parler un petit peu après, qui regroupe les quatre groupes les plus emblématiques de la scène de crust tokyoïte des années 90. Le groupe a un peu disparu, Battle of Disarmed, pour des histoires d'argent, je crois. Je crois que le chanteur, hein, celui qui faisait DIY Records, justement, s'est grillé d'une façon ou d'une autre, et ils ont été complètement annulés, cancel. C'est-à-dire qu'au Japon, maintenant, personne ne parle de Battle of Disarmed. C'était quand même un des groupes les plus célèbres. C'est un des rares groupes qui a tourné en Europe dans les années 90. Hein, Battle of Disarmed, c'est un des rares groupes qui a tourné, il y avait Are You Damnation d'Osaka également. Mais donc c'est pour ça qu'ils sont très connus en Europe, c'est parce qu'ils ont tourné. Et donc les gens, soit les ont vus, soit on trouve des t-shirts, des disques, etc. Voilà. Puis comme ils ont été très prolifiques, c'est pas très compliqué de trouver leurs disques, d'autant plus qu'ils ont fait des splits avec des groupes européens. Donc c'est quand même un groupe assez célèbre, c'est pas forcément les meilleurs, hein, du style. Moi je trouve qu'il y a quand même des bonnes choses, il y a des gens qui disent que c'est médiocre et qu'on se souvient d'eux pour leur tournée européenne et parce qu'ils ont sorti beaucoup de disques. Je connais pas vraiment le degré de leur popularité à l'origine au Japon, hein. C'est connu en Europe, mais peut-être que là-bas c'était considéré comme un groupe un peu... voilà. Comme un autre, hein. Mais bon, il y a cette histoire d'argent qui fait que post 2005, voilà, il y a eu, ils ont été un peu boycottés. Derrière, on a eu un morceau de Abraham Cross. Alors tout à l'heure qu'on écoutait Macrofarge, j'avais dit qu'il y avait une école de crusty japonais qui essayait d'imiter Doom à fond. Abraham Cross, ils sont sûrement les plus emblématiques dans ce style. Donc on est vraiment pile dans l'école Doom Surfrot, hein, Birmingham 87-88, une voix inimitable, hein, vraiment, on est sur de l'ours mal léché, mort-vivant. C'est mortel, alors, au niveau de la formule, c'est doux, mais plus de distorsion, une espèce de basse qui somme qu'un coup de tonnerre, ce chant complètement ouf. Moi, c'est un groupe que j'aime beaucoup, Abraham Cross. Le morceau qu'on a écouté, c'était Curse for Life, sorti sur un disque appelé Peace Can't Combine, qui est sorti en 2002, mais qui était enregistré en 95. Pourquoi ça a pris trop de temps, je ne sais pas. Bien évidemment, comme Battle of Disarm, Collapse Society et Crocodile Skink, qu'on va écouter juste après, ils ont fait partie, Abraham Cross, de la compile Tokyo Crusty, sortie en 94. On les trouve également sur la compilation Meaningful Consolidation de 94. Et ils se sont formés en 92-93, un truc comme ça. Ils ont existé un bout de temps, et sur la fin, ils faisaient un mélange de cross et de hard tech, de harsh noise, un peu techno. Ben, ils sont passés un petit peu à autre chose, toujours en gardant cette base crust à la Doom, hyper bruyante. C'est un groupe très intéressant, Abraham Cross, qui gagnerait à être un peu plus connu. Bon, après, c'est en plus les fans de crust japonais qui connaissent ce groupe, mais c'est vraiment cool. Des membres d'Abraham Cross vont jouer après dans Frigera, Disprove, Life, évidemment, et Collapse Society, c'était le groupe suivant. Collapse Society, un groupe un peu plus bref, hein. Ils ont existé une paire d'années, il y a une démo de 93, donc je présume qu'ils sont formés en 92, là on a écouté un extrait donc de la compilation Tokyo Crusties que j'ai mentionné, c'était Necessity of Danger, le morceau. Alors Collapse Society, ils sont sur un créneau, alors, c'est vraiment très distordu, très très cru, on n'est pas hyper loin des premiers pas de Gloom, d'ailleurs d'Osaka, hein. Donc c'est un mélange de hardcore suédois quand même, c'est une base de hardcore italien, moi j'entends quand même pas mal de hardcore italien, des groupes anglais évidemment, à la Chaos UK, Disorder, pour certains roulements de batterie, et puis du early crust, hein. Voilà, côté, surtout au niveau du chant, du côté incessant comme ça, voilà, un groupe classique dans un certain sens, mais voilà, peut-être trop peu connu pour être vraiment... on dirait un classique mineur. En tout cas, c'est, si on aime ce style-là, c'est quand même assez incontournable, Collapse Society. Voilà, mais on n'est pas sur du crust, on est sur du crust vraiment en distorsion avec un son hardcore cru des années 80. On est un petit peu sur un autre délire qu'Abraham Cross, par exemple. Évidemment, il y a des points communs, parce qu'il y a des membres en commun, mais on est sur un petit peu autre chose. Abraham Cross, on est vraiment sur l'école Doom. Collapse Society, on est plus sur une espèce de crustification du hardcore 80. Voilà, mais quand même une façon d'écrire qui est plus dans du côté du hardcore cru. Quoi. Bref. On a fini par Crocodile Skink, voilà, donc groupe de Tokyo également, qui a existé un petit moment, hein, Crocodile Skink. Attendez, je retrouve ma fiche. Voilà. J'ai perdu mon petit bout de papier. Ils ont existé entre 90 et 97. Ouais, j'ai quand même pris pas mal de notes, ce serait dommage de le perdre. Le morceau qu'on a écouté, c'était Animal, a Right and Human, a Duty. Donc, comme j'ai mentionné plus tôt, il y a un côté assez poétique dans l'anglais japonais. C'est un morceau tiré d'un split avec No Security, groupe de hardcore suédois hyper bien. C'était en 95, ce split. Avant ça, il y a un EP de 92, un split avec Forza Macabra de 97. Et pour la petite anecdote, il y a un membre donc, de Crocodile Skink qui était géré Tribal War Asia, qui était un label crust hardcore assez connu japonais. Tribal War Records, c'était évidemment le label du chanteur de Nausea, le groupe de New York, hein, qui, quand il va déménager à Portland, va créer ce label. Et il y avait une division asiatique, japonaise, de ce label-là, Tribal War Asia, donc, qui collaborait. C'était quelqu'un de Crocodile Skink donc, qui gérait ce label, donc, qui a sorti quand même pas mal de groupes, soit japonais, soit des versions japonaises de disques européens. Hein, on peut penser notamment à Sanctus Yuda ou des groupes comme ça, qui avaient une version voilà, faite pour le Japon. Alors, c'était un sous-label qui s'appelait Agia Records. Bon, c'est la même chose. Voilà, donc, c'était un label qui n'existe plus, hein, mais c'était un label assez actif dans les années 90 et 2000. Notamment responsable des compilations les Cross Nights, hein, qui étaient compilations assez cultes, voilà, j'ai pas trop le temps d'en parler, mais plutôt début des années 2000, hein, qui regroupait énormément de groupes, des petits groupes cross, des trucs un peu plus connus, c'est toujours en CD avec des beaux dépliants, voilà, c'est un truc assez culte, hein, si on est fan du style. Crocodile Skink, c'est assez efficace, c'est assez classique, on est sur du vraiment Eurocrust, Crust 90, assez typique, bien fait. C'est pas le groupe phare, mais c'est quand même bien fichu. Et c'est un groupe à connaître, hein, puisque on est vraiment sur. C'est assez classique, malgré tout. On va enchaîner avec un morceau d'acide dont j'avais parlé un petit peu avant. Voilà, je sais pas trop le 35. Oui, allez, on part sur du acide. Yeah.
things surely meet crumble. Living things surely meet death. And when we meet death, never come to life.
Vous êtes toujours sur LVRTR 89.4, c'est l'émission Détruire l'ennui. Aujourd'hui, une émission spéciale crust japonais. On a première série de 4 morceaux, c'était sur les pionniers, seconde sur Osaka, la troisième sur Tokyo. Là, on va varier un petit peu les plaisirs et on va mélanger un petit peu le pionnier et le tokyoïte, puisqu'on a commencé par Acid. Alors, Acid, c'est un cas un petit peu particulier, puisqu'à l'origine, c'est pas un groupe de crust, Acid. Hein. C'est un groupe de Burning Spirit. Alors, le Burning Spirit, c'était une série de concerts, en fait. Hein. C'était les concerts Burning Spirit, c'était des concerts qui rassemblaient le groupe de hardcore japonais, disons, traditionnel, c'est le terme employé, en tout cas consacré, pour les désigner, donc les Deathside, les Bastards, les Lip Cream, tout ce que j'ai mentionné, bon, Ghost, pas vraiment, mais voilà, un petit peu, c'est plus influencé par le hardcore américain, en vérité, hein, que par le punk anglais. Et donc Burning Spirit, c'est une série de concerts, et Acid, à l'origine, ils sont quand même plutôt dans cette vague-là, hein, des groupes plutôt à l'américaine, entre guillemets, même si typiquement japonais au niveau du son, on le reconnaît tout de suite, mais c'est pas un groupe de crust. Premier album, Shock Troops, c'est clairement pas du crust. Et le second, 91, donc Grey Earth, par contre, là on est complètement dans du crusty. Donc je sais pas, j'ai jamais trop su si c'était quelque chose de volontaire. Esthétiquement, il y a quand même des gros indices, il y a le symbole de la paix, il y a des colombes, il y a quand même toute une esthétique qui se rapproche du crust, disons, traditionnel. Mais voilà, je connais pas assez l'histoire du groupe, bon, je connais la discographie, ça, il y a pas de problème, je sais pas trop. En tout cas, c'est sorti sur Selfish Records, Grey Earth, qui n'est pas du tout un label crusty, hein, c'est un label de hardcore japonais bien établi, avec des classiques, comme je les ai mentionnés, hein, ben, voilà, c'est le gros label de hardcore japonais de cette époque. Mais au niveau du son, on n'en est pas vraiment là-dessus, donc ça rappelle, moi ça m'a rappelé des groupes comme Chaos UK, mais un peu plus cru, un peu plus crustifié en quelque sorte. Il y a un côté évidemment, le premier groupe de crust anglais, c'est un peu crucifix aussi, tous ces groupes de peace punk ricains. Niveau du phrasé, voilà, y a quand même des parallèles qu'on peut faire, mais c'est hyper bien. Voilà, cet album, c'est un de mes préférés, hein, vraiment de la vague crust japonaise, même si c'est pas vraiment un groupe de crust en fait. Voilà, c'est pour ça que je disais, est-ce que c'est du crust involontaire entre guillemets? Bon, je pense que non. Hein, ils voulaient quand même faire vraiment un album avec ces sonorités-là, mais voilà, c'est tellement dépareillé par rapport à ce qu'ils faisaient avant, jusqu'à un certain point, on n'est quand même pas non plus à des années-lumière, mais voilà, il y a des choses qui ne trompent pas. Le morceau qu'on a écouté, c'était Education Pose as a Suffer, ça ne veut pas dire grand-chose, et donc Acid, c'est un groupe qui a existé entre 87 et 92. Derrière, on a eu Life. Alors Life, par contre, il n'y a pas de doute, c'est du crust à 200%. C'est le groupe de crust à la longévité la plus importante, puisqu'ils existent depuis 92, il me semble. Ils ont fêté leurs 30 ans l'année dernière, 92-93. En activité, un groupe de crust de 30 ans, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Extinction of Mankind, qui s'est formé en 92. Alors Misery, il y a des grosses, grosses pauses quand même. Ils reprennent les concerts. Mais voilà, Life et Extinction of Mankind, pour moi, sont les deux groupes qui existent depuis le plus longtemps, sans réelle pause, sans split, etc. Groupe de Tokyo, Life, une énorme discographie, joue énormément, localement notamment. Malheureusement, jamais de concert en Europe pour le moment. Bon, moi, j'ai eu la chance de les voir à Osaka en 2018. C'était mortel, c'était hyper bien, ça dégage une bonne énergie, il y a des textes vraiment politiques, groupe DIY à 100%, voilà, c'est un super groupe. Le morceau qu'on a écouté, c'était The Age, et c'est sorti sur leur démo de 94, When the Peace Collapse. Donc c'est vraiment la première période du groupe, où on est sur du crust assez classique, là encore, assez cru, voilà. C'est bien fait, ben moi j'aime beaucoup hein, tout ce qu'ils font, même si voilà, s'il y avait juste eu cet enregistrement-là et qu'ils avaient arrêté en 95, ça serait plutôt anecdotique, mais voilà, par la suite ils ont sorti beaucoup de choses, des choses bonnes, d'autres moins bonnes, enfin que j'aime moins, mais dans les très très bonnes choses, il y a cet album de 99 hein, qui s'appelle The World Lies Across Them, et celui qui est sorti en 2020, Ossification of Coral, qui est vraiment hyper hyper bien. Dans Life, on trouve des membres de Frigora et d'Abraham Cross, hein, groupe qu'on a écouté un petit peu plus tôt. Voilà, c'est vraiment vraiment hyper classique. On peut difficilement faire plus classique qu'eux, et surtout, ils sont encore actifs. Et donc, il y a moyen de les voir. Dernièrement, ils ont sorti un spectacle Zudas Crust, donc un groupe de Indonésie, et Instinct of Survival, les Krusty allemands assez connus. Derrière, on a eu Anti-Authorized. Donc là, on est sur du plus pointu. Vous vous rappelez d'SDS, le premier groupe qu'on a passé, qui était ultra influencé anti-secte. Hein. Donc, anti-secte, le groupe à l'inventeur du crust, en quelque sorte, hein, issu de la scène anarcho-punk anglaise, qui va peu à peu mélanger le punk et le metal pour créer ce style un peu hybride. Et bien là, on a deux groupes qu'on a écouté de la suite, hein, Anti-Authorized et Carnage, que je vais présenter après, qui sont très influencés par SDS. Donc on est sur de la double influence, hein, anti-sec, mais par le chemin de SDS. Donc on est vraiment sur ce son-là, deuxième période dans anti-sec. Enfin, c'est un mélange entre les deux. Dans le cas d'Anti-Authorized, on est entre la période In Darkness, There is No Choice et la période Out from the Void. Donc un peu la transition entre le punk hardcore et le metal punk crusty anti-sec. On est un petit peu entre les deux. Ils ont sorti un seul EP, Anti-Authorized, qui s'appelle All Wind en 95. Sorti sur MCR, MCR Records, c'est un des gros labels de punk japonais qui est encore actif, qui a sorti un nombre incalculable de disques, et beaucoup de groupes de crust notamment, hein, ont sorti des disques chez eux. Bon, on pourrait faire une émission juste sur ce label, tellement il y a de sorties, c'est assez fou en fait. Hein. Voilà, mais bon, c'est pas vraiment le sujet, mais voilà, il y a des disques qu'on a écoutés clairement qui sont sortis là-dessus. Anti-Authorized, outre ce très bon EP, hein, Ruin, c'est un morceau que j'aime beaucoup. Ils apparaissent sur la compilation Meaningful Consolidation, qu'on a mentionné à plusieurs reprises avant, sorti en 94. Aussi sur Chaos of Destruction, c'était un triple LP, une compilation triple LP, sorti en 97, par Kawakami de Disclose, c'est sorti sur son propre label. Dans Anti-Authorized, on trouve des futurs membres de Golem, c'est ce qui a fait suite au groupe. Hyper bien, on est vraiment sur du stenchcore, un petit peu doom metal, groupe hyper obscur, mais voilà, la cassette est absolument introuvable, mais vraiment hyper bien. Plus lent, hein, du coup, en plus à la Axe Grinder, mais entre premier Paradise Lost, Axe Grinder, quelque chose comme ça. C'est super chouette. Et voilà, Anti-Authorized, donc pas le groupe le plus connu, mais si vous aimez le crust à la SDS de typique japonais, ça va le faire. Le groupe suivant, Carnage, là c'est vraiment, on est sur des mêmes bases, hein. Crust influencé par SDS à fond, deuxième période anti-secte du coup, donc vraiment à la Out from the Void, comme beaucoup ce que faisait SDS, hein, donc c'est un peu l'influence de l'influence. Ils étaient de Mie City. Carnage, Anti-Authorized, ils étaient de Tokyo, hein. Mais Carnage de Mie City, c'est pas une grosse ville, mais c'est la ville d'où était originaire Disclose, il me semble. Le morceau qu'on a écouté, c'était Desperate Future, sorti sur la compilation Mie City Hardcore en 94. Il y a aussi des morceaux de ce groupe sur la compilation What is Crust, What is Metalcore, qu'on a mentionné plusieurs reprises, sorti en 98 en CD. Groupe qui n'a pas enregistré beaucoup, hein, je crois qu'il y a quatre morceaux qui existent. C'est super bien, moi c'est vraiment le style que j'adore, hein, le crust à l'antisecte à la japonaise. Bon, malheureusement, il faudra se contenter de ces quatre morceaux, à moins qu'il y ait des enregistrements cachés qui traînent. Il ne reste pas beaucoup de temps. On va passer Age. Allez, morceau de Age pour repartir sur des bases un peu plus lentes, un peu plus lourdes. Et si on a le temps, on mettra Mental Disease. C'est parti. Toujours sur Alverter, c'est une mission Détruire l'ennui, spécial cross japonais. Voilà, ce sera les deux derniers morceaux de l'émission. J'en avais prévu quatre autres. Bon, j'étais un petit peu ambitieux, j'ai sûrement un peu bavassé trop. Bon, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, donc ceci explique cela. On a fini par deux morceaux. Le premier, c'était Age, c'est un groupe de Niigata. Age, ça veut dire Armed Government Error. Une erreur d'un gouvernement armé. Les Age à l'origine s'appelait Akushi. Alors, c'est pas exactement les mêmes membres, mais voilà, Akushi, c'est un groupe du début des années 90, qui est formé en 91, qui a sorti pas mal de disques, qui a un spectacle avec Disclose, assez connu notamment, parce qu'il y a Disclose dessus. Des choses plus hardcore japonais, un poil métallisant, mais un très très bon EP qui est clairement du côté du crust, hein, qui s'appelle, je n'ai plus le titre en tête, mais voilà, qui préfigure un petit peu ce que Age hein, va faire par la suite avec à peu près les mêmes membres. Donc il y a un peu une transition entre Akushi et Age qui fait avec ce dernier EP. Moi, c'est pas The Age of Confusion qui s'appelle d'ailleurs, quelque chose comme ça. Voilà, donc là, c'est le premier EP de Age qu'on a écouté. Ce morceau, c'est Inside Darkness. C'est aussi le nom du EP, sorti en 97. On est sur un crust vraiment à l'anglaise, hein. Ça rappelle Amibix, Axe Grinder, Antisect aussi, un peu mid-tempo, assez métallisant, ça va pas très vite, les morceaux sont longs, il y a vraiment des côtés atmosphériques, c'est un super EP, hein. Moi je l'aime vraiment beaucoup beaucoup. Par la suite ils vont se SDSiser. Petit à petit, il y aura plus en plus cette influence de SDS dans ce que faisait Age, ce qui n'est pas du tout une mauvaise chose, hein. Moi j'aime énormément SDS. Voilà. Mais c'est quand même progressif. L'album derrière, Exploding Insanity de 99, on est quand même sur des bases assez similaires à Inside Darkness. Four Wings en 2001, ça a évolué un petit peu. Et voilà, peu à peu, ils vont se transformer en cette espèce de cybercross complètement dément, comme la deuxième partie de SDS. Groupe culte, hein. Age pour le coup, ils sont assez connus quand même. On a fini par un groupe qui l'est beaucoup moins, Mental Disease. Donc, comme mentionné sur le tout premier groupe, SDS était fasciné par Antisect, et ben Mental Disease était fasciné par Nausea, le groupe de crust de New York ultra connu, un des groupes fondateurs du style, du côté des États-Unis en tout cas. Voilà, donc chant mixte, hein, fille-garçon assez classique dans les logos, dans plein plein de choses, il y a beaucoup de références à Nausea. Moi je trouvais ça aussi assez positif de mettre un groupe avec aussi une fille, notamment au chant, voilà, pour mettre un petit peu de diversité dans une scène punk japonaise qui en manque quand même pas mal. Voilà, donc c'est droit devant, hein. Ils sont assez distordus avec donc ce chant hyper agressif, c'est assez classique mais je trouve ça très bien fait. C'est un groupe qui est un peu méconnu ou sous-estimé, je sais pas trop pourquoi, il devrait être un poil plus disons, apprécié. Le morceau qu'on a écouté, il est tiré d'une compilation 10 pouces qui s'appelait No Hesitation